RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
À tous, coup d'envoi des GG, des grandes gueules, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec maître Sandrine Pégan, avocat, bonjour.
Bonjour à tous. Ah, attention, c'est la Sainte Sandrine aujourd'hui.
Ah, oh, pardon.
Alors je l'annonce, vous allez devoir tous cautionner ce que je dis pendant 3 heures. On est d'accord, c'est ma fête. Vous devez dire ça.
Ça peut être ta fête
dans l'autre sens.
Manière, aussi.
Oh, c'est mignon cette petite tentative de rébellion,
de déstabilisation.
Bon. Je pense qu'on va commencer à bien lui expliquer le format de l'émission.
Voilà. Bonne fête en tout cas.
Ouais, merci, avec grand plaisir.
Abel Boyi, l'éducateur et des nôtres aussi aujourd'hui.
Salut,
bonjour
les
Abel.
Amis.
Et puis Barbara Lefebvre, l'enseignante et de la partie aussi.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Barbara. On sera avec Robert Ménard dans son face au GG tout à l'heure, le maire de Béziers. Il sera avec les grandes gueules à partir de 11h. On regardera aussi l'action collective qui se met en place contre le trop-perçu des péages. Une action collective pour dire, en fait, les péages, ils augmentent régulièrement, mais on ne voit pas les travaux qu'ils nous promettent, les améliorations. Donc, est-ce que vous soutenez cette action collective? On parlera de la grève des enseignants aussi. Moins d'élèves, donc ça peut vouloir dire moins de profs. Non, disent les enseignants. Au contraire, attention de ne pas faire une logique budgétaire. Mais d'abord, on va regarder les carburants, la hausse des prix et surtout le nombre de stations en rupture d'approvisionnement, le nombre de stations à sec qui commence à augmenter.
On en est quasiment... qui est exorbitant, ben voilà, c'est vide. Donc bah là, moi je suis vide, le réservoir est vide, donc il va falloir que je fasse le tour pour arriver à trouver du carburant.
Vu le prix, oui, ça force les gens à rouler moins, je pense. Parce que un plein, c'est quasi 100 balles maintenant, donc ça fait beaucoup quand même.
Il n'y a plus de gasoil, il n'y a rien qui sort. Je suis en réserve, je vais voir déjà s'il y en a sur d'autres machines, sinon je vais me garer. Hein.
On est quasiment à 1800 stations-service qui connaissent des ruptures d'approvisionnement. Mais le gouvernement dit pas de risque de pénurie.
La question que tout le monde va se poser dans les jours qui viennent, y aura-t-il de l'essence à Pâques? Ça va vraiment être la question numéro un, parce qu'il y a ce week-end de Pâques qui démarre, il y a les vacances de Pâques qui démarrent, et on ne croit pas du tout ce que dit le gouvernement. D'une manière générale, hein, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la parole du politique, elle est vraiment remise en cause. D'autant plus que Maud Bréjon, quand elle nous dit moins de 10% des stations sont en rupture, c'est faux puisqu'on est à 16 ce matin. Donc on voit qu'il y a déjà un décalage entre les propos officiels censés nous rassurer et la réalité. Alors pourquoi il y a autant de 16? Ça veut dire qu'il y en a une sur 6, hein, quand même. C'est pas rien. C'est beaucoup des stations Total parce que comme Total avait arrêté son opération, était censé arrêter son opération de plafonnement des tarifs, eh bien tout le monde s'est précipité. Bon, heureusement, Total a prolongé jusqu'à mardi prochain. Mais c'est vrai que on privilégie Total en ce moment, c'est moins cher. On se pose la question, est-ce qu'il y aura pénurie? Alors pour l'instant, le gouvernement se veut rassurant aussi sur les stocks, puisqu'on a des stocks stratégiques. On a beaucoup de barils de côté. Ils ont été assez peu débloqués jusqu'à présent, donc on a de la marge. Mais la guerre va continuer, c'est ce que nous a dit Donald Trump cette nuit en disant au moins 2-3 semaines. Donc c'est pas rassurant et ça serait bien qu'au 32-16 vous nous appelez pour savoir comment vous organisez.
Est-ce que vous craignez le risque de pénurie ou pas? Vous nous le dites effectivement. Abel, vers chez toi, comment ça se passe?
Non, il n'y a pas de pénurie. Moi, ce que je crains plus, c'est que ce gouvernement Pinocchio, à force de mentir, finisse par se casser le nez.
Il aime bien Pinocchio
côté,
à chaque fois.
D'un côté, on nous dit que... Non, la dernière fois, c'était Pikachu.
Là, oui, c'est même Pikachu.
D'un côté, on nous explique qu'il y a des stocks. D'un côté, il y a des pénuries. D'un côté, le gouvernement ne prenait pas de marge sur la hausse des prix. D'un côté, on découvre qu'ils en prennent. Donc, en réalité, c'est une situation qui est extrêmement confuse pour les Français qui, eux, trinquent au quotidien et galèrent pour finir les fins de mois. Vous avez fait plusieurs émissions. Il y a des Français qui limitent leur trajet. Il y a des Français qui sont en danger même par rapport à leur efficacité, à leur efficience par rapport à leur travail. Donc, aujourd'hui, je n'espère pas qu'il y ait des pénuries parce que je pense que j'ose espérer que dans un pays développé comme la France, on a des stocks pour au moins 2-3 mois. Mais s'il devait...
108 jours, précisément.
Voilà. Donc, s'il devait y avoir pénurie, ça serait vraiment gravissime pour ce pays parce que je répète que l'ensemble des barils que nous prenons ne se trouvent pas au Moyen-Orient. Nous exploitons beaucoup le pétrole en Afrique notamment. Donc, où va l'argent? Où va le pétrole? Qui se fait de l'argent sur le dos des Français? C'est toujours la même question.
Oui, mais tu sais que la pénurie, elle est autoréalisatrice. C'est-à-dire que si on commençait à dire aux Français, attention, on n'en a plus beaucoup, les gens se précipitent à la pompe et ça accélère la rupture de stock.
Oui, d'accord, mais vu que le gouvernement, s'il faut le croire, il nous a dit qu'on a des stocks, bon, 108 jours a priori.
Dans ce cas-là,
attendons.
Ce que dit le gouvernement,
il faut rationner, c'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, c'est pas plus de 20 ou 30 litres par personne.
Voilà, ce que dit le gouvernement, ce que disent les autorités. On pourrait tout arrêter aujourd'hui, si tu veux les importations, on a 108 jours devant nous. 90 sont détenus par l'opérateur public, 18 chez des opérateurs privés. Et on a dans le monde au total 1 milliard de barils de stock
stratégiques. À quel prix on les a achetés ces barils? Oui, parce qu'il y a une petite entourloupe. Parce que ces barils ont été achetés lorsque le pétrole était, je sais pas, à 60 ou 70 $10. Aujourd'hui, il est au-dessus de 100. Donc, est-ce que ces stocks stratégiques seront vendus au prix du marché actuel ou au prix où on l'a acheté? Il y a certains députés qui commencent à dire attention, il faudra surveiller à quel prix on nous le vend.
Ça risque d'être au prix du marché.
Alors, je sais pas. Effectivement. Ouais,
donc l'État se fera une petite.
Autant enfler les Français jusqu'au bout. Pourquoi se priver?
L'État se fera une petite.
Est-ce que ça vous inquiète effectivement là au week-end de Pâques, que vous allez faire des pleins de prévisions, des pleins préventifs, oui ou non? 32-16 pour en parler. Je sais pas. T'es à l'électrique ou t'as une voiture?
Je suis en hybride. Oui, j'ai une voiture. Oui, je suis en hybride, mais bon, j'ai
essentiellement d'essence l'hybride. Hein.
Ouais, on est bien d'accord. Donc surtout tu fais que j'ai une réserve électrique de 40 km. Alors, je vais pas aller bien loin avec ça.
Tu vas faire un plein préventif ou pas?
Moi, sincèrement, oui. En plus, je pars là pour Pâques justement pour ce week-end. Je pars en Charente-Maritime, donc c'est quand même à 400-500 km en aller-retour.
Voiture, donc.
En voiture. Ouais. Ouais. En train, ça coûte trop cher.
Ta villa, donc, 450 mètres carrés.
Oui,
c'est ça.
J'aimerais bien. Non, je vais juste dans une petite bicoque voir le papa de mon associé. Oui, ben je vais m'organiser en prenant déjà de l'essence ici. Je me suis renseignée auprès de la personne chez qui nous allons, donc le papa de mon associé qui vit à Cognac, et donc là pour le coup il y a encore de l'essence, donc
Ah oui, t'as quand même pris tes précautions.
Ah oui, j'ai même demandé à son papa de faire en sorte de nous remplir des jerrycans au cas où. Mais en fait, le problème, c'est que
la pénurie qui s'organise.
Eh oui, mais bon, avec des termes, des termes comme pénurie, etc. La peur engendre la pénurie, donc forcément on est obligé de s'organiser puisque.
Oui, mais quand le gouvernement te dit il y en a pas. En fait, t'as encore plus peur.
Eh ben exactement. Ouais, non, mais plus on va te le dire et plus en fait tu vas comprendre les gens pourquoi ils vont se ruer à la station-service. C'est pas une panique irrationnelle. C'est vrai que là on en a tous marre et puis on est toujours en train de subir par rapport à tout ce qui se passe pour des guerres qui ne sont pas les nôtres. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'origine même des guerres, mais bon, à chaque fois on est toujours en train de subir. Donc oui, je m'organise.
On n'est jamais trop prudent, maître Pégan.
Voilà, c'est ça.
Et tu l'as fait ou pas?
Non, pas du tout.
Pas de jerrycan ni rien chez toi.
Non, moi je comprends les gens qui peuvent avoir peur, mais moi je n'aime pas cet effet, et c'est pas pour toi que je le dis.
Attention,
j'aime pas l'effet mouton, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement annonce quelque chose, donc on se jette tous, on agit tous
mouton,
de la même manière.
Ou précautionneux.
Non, mais vous verrez qu'une fine, ça ne servira à rien.
Barbara.
En tout cas, je prends le pas.
Toi qui es à l'électrique, d'ailleurs, je le rappelle.
Oui, mais enfin, je compatis quand même, mais bon, oui.
100% électrique, Barbara?
Oui, 100% électrique. Oui, mais après, je fais pas des longues distances, je fais de la petite distance, bon, urbaine, etc. Je veux reprendre ce que dit Abel. Parce que j'aimerais bien qu'on arrête un peu, excusez-moi de la vulgarité de mon propos, mais j'aimerais vraiment qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. 71% du pétrole qui est en France n'est pas du pétrole qui vient du Moyen-Orient.
Bah oui.
38% il vient d'Afrique, 23% d'Amérique du Nord, 10% de la mer du Nord. Il nous reste à peu près 12% du Moyen-Orient. Alors peut-être que ça avait un petit peu augmenté parce qu'à suite à la guerre en Ukraine, on a réduit nos stocks venant de Russie, mais malgré tout, on a beaucoup diversifié. C'est aussi pour ça que toutes ces histoires, la pénurie, le choc pétrolier, le ci, le là, on va tous mourir. Non, parce que on a quand même tiré, je dis pas le gouvernement, mais les États en général, surtout les pays très dépendants en hydrocarbures, ont compris depuis 40 ans qu'il fallait diversifier beaucoup plus la provenance de son pétrole et de son gaz, ce que la France a fait et d'autres pays, que tous les pays ont fait. Comment on m'explique qu'avec 71% du pétrole qui vient de partout ailleurs que le détroit d'Ormuz, on vient nous dire « Ah, le détroit d'Ormuz est bloqué. Allez, messieurs, dames, on va tous mourir, il n'y aura plus de pétrole. Il n'y aura plus d'essence dans les pompes. » C'est parce qu'il y a un discours qui tend aussi à essayer de décrédibiliser, bien entendu, évidemment, tout ce que peut faire Donald Trump, etc. C'est à cause de lui qui nous bloque le détroit d'Ormuz. Non, c'est à cause des mollahs iraniens, mais c'est pas grave, continuons à travailler avec ces gens-là et continuons à essayer de nous dire que eux, c'est pas le problème, que le problème, c'est Trump. Non, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gouvernants qui, certains en Europe, ont un peu anticipé ou en tout cas essaient d'agir pour limiter la hausse du prix du pétrole, qui est pour une grande partie un effet mécanique qui arrange bien les pétroliers. Excusez-moi, encore une fois, j'en ai parlé la dernière fois. Quand Total Energy ne se versera pas autant de dividendes, on viendra me dire qu'il y a des problèmes avec les approvisionnements. Moi, je vois que les pétroliers se portent très bien, que l'État se porte bien, il fait aussi du bénéf. Par contre, je crois que celui qui se porte pas bien, c'est le Français. C'est le petit artisan qui bosse. Donc encore une fois, qu'on arrête de détourner l'attention en nous faisant croire que c'est le détroit d'Ormuz le problème. Non, le problème, c'est l'accord qu'il y a entre les pétroliers, les raffineurs, les distributeurs et l'État, qui tous ont un intérêt à plumer le chaland. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas de pénurie, sauf celui qu'on crée par la panique.
Exactement.
On le voit bien, les gens.
Oui, mais bon.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme Sandrine, ils remplissent des bidons. Alors qu'il n'y a aucun risque. C'est juste qu'on a un État impuissant.
Tu penses qu'il y a un risque, mais bon.
Je suis désolée, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Hongrie, ils ont mis en place des mécanismes qui sont pas parfaits, mais qui au moins rassurent un petit peu la population.
Et oui, mais on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré.
Oui,
nous,
mais
les Français.
Je te dis, la population dans ces pays-là, elle est un peu rassurée, donc elle se dit pas, je vais remplir des jerrycans. Nous, étant donné qu'on a des dirigeants qui, sur tous les sujets, disent une chose et le contraire, et après ils se foutent de la gueule de Trump. Hein. Oh, Trump, vraiment, il dit une chose et son contraire. Ah ben, excusez-moi, tendez l'oreille, écoutez Lescure, Le Cornu et Macron. Il y a pas pire, ça fait 10 ans qu'ils disent une chose et son contraire. Ils ont créé un état permanent de stress chez les Français. Pourquoi vous voulez qu'ils remplissent pas des jerrycans? Donc c'est eux qui créent la pénurie, c'est Macron, Le Cornu et toute sa clique avec l'ambiance qu'ils mettent dans ce pays.
On va aller est-ouest, on va faire les Pyrénées-Atlantiques et on va faire les Alpes-Maritimes. On va commencer par les Alpes-Maritimes avec Stéphanie qui est du côté de Cannes. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour les GG.
Bienvenue. Est-ce que vous craignez une pénurie? Est-ce que vous avez fait un plein préventif? Dites-moi Stéphanie.
Alors, moi, j'ai une voiture hybride, je peux faire 70 km sans problème. Ouais. Donc moi, depuis le mois d'août l'année dernière que j'ai ma voiture, je n'ai pas dépensé un centime pour elle.
D'accord.
C'est-à-dire que vous faites de petites distances alors?
Non, j'ai fait Cannes-Monaco. J'ai chargé à Monaco parce que j'y vais régulièrement. Je charge gratuitement.
Oui. C'est pas la France, Cannes-Monaco.
Non.
Puis voilà, c'est pas comme Marseille.
Il y a des embouteillages, mais ça fait 60 km.
Il y a énormément d'embouteillages.
Oui, c'est vrai.
La route est complètement saturée.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Quelle horreur.
En permanence. Mais je voulais dire surtout que je suis allée à Villeneuve-Loubet hier et j'ai été énormément surprise de voir que les rues étaient vides. Il n'y avait personne. Et j'ai pas fait le rapprochement. C'est ce matin en vous écoutant que j'ai réalisé que les gens sortaient, pour ainsi dire, pratiquement plus.
Oui, ça sera d'ailleurs intéressant, Stéphanie, de vérifier ce week-end s'il y a moins de monde sur les routes. Parce que le week-end de Pâques, c'est l'un des week-ends les plus empruntés, les plus chargés sur les routes et autoroutes, parce que les gens vont beaucoup voir leur famille, partent le week-end, etc. Ça va être intéressant de mesurer l'impact de cette crise sur les déplacements ce week-end.
Alors Stéphanie, puisque je disais, vous dites il y a personne, donc on limite les déplacements. On va voir du côté donc des Pyrénées-Atlantiques, à Saint-Jean-de-Luz avec Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, pas de pénurie, vous craignez, vous ne craignez pas, vous faites un plein préventif avant le week-end de Pâques. Dites-moi, Guillaume.
Alors, nous, déjà, on est frontaliers, donc on n'a pas trop le problème de pénurie. On l'a jamais, quasiment jamais eu.
Oui.
Puisqu'on va aller faire le plein côté espagnol s'il faut. La pénurie en elle-même, elle va arriver s'il n'y a pas de stock. Il y en a, donc il n'y a aucune raison, apparemment, d'après ce que dit le gouvernement, qu'il y ait une pénurie. Même si les gens se ruent sur les stations, ça ne changera pas grand-chose.
Vous n'êtes pas inquiet, vous?
Ah non, mais moi je fais même le plein de mes véhicules de société côté espagnol maintenant.
Ah oui, carrément.
C'est pour ça que lui, il n'a pas de risque de pénurie.
Ouais. Vous pouvez nous dire le prix en Espagne? Rappelez-nous le prix en Espagne.
1,50.
Ah bah tiens.
1,50.
Ça s'appellerait pas les taxes?
1,50 l'essence ou le...
1,50
le diesel. 1,50
le diesel.
Parce que c'est ce qui coûte le plus cher.
Eh ben oui. Et pourtant,
moi sur les véhicules de société, je perds la TVA. C'est-à-dire que j'ai récupéré la TVA, ben là... Je préfère la laisser côté espagnol, ça me coûte moins cher de ne pas récupérer la TVA côté espagnol que de le faire côté français.
Bien sûr.
Oui, mais alors ce que je comprends pas, Guillaume, vous dites que finalement il n'y a pas de risque de pénurie et mine de rien, en attendant, vous allez vous approvisionner en Espagne.
C'est moins cher.
Mais j'ai bien compris, c'est moins cher. Mais bon, dans ces cas-là, faisons en sorte aussi de s'approvisionner en France.
Ah ben non, je vais pas consommer français. De toute façon, que j'achète chez Total en Espagne ou chez Total en France, je pense que la pompe à essence Total en Espagne, elle est à 1,50. La pompe à essence Total en France, elle est à 2,40.
D'ailleurs, tiens, en parlant de Total, pourquoi Total ne prend pas la parole? Pourquoi Total Énergie ne prend pas la parole?
Allez-y, Guillaume.
Non, mais il y a une solution très simple que l'État ne veut pas mettre en place, c'est de plafonner les taxes.
Rien,
c'est juste de les plafonner. Ça ne change rien pour son budget, puisque dans tous les cas, il avait été calculé avec moins de recettes, donc il va gagner plus d'argent, et on restera, puisqu'il y a plus de 60% de taxes, on restera à moins de 2 euros le litre.
Pour Guillaume, le surplus fiscal, parce que le gouvernement a avoué quand même qu'il y avait un surplus fiscal, il va être utilisé pour électrifier la France, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement.
Stéphanie, Guillaume, je vous propose simplement de continuer sur la pénurie après Guillaume qui lui va faire le plein en Espagne, Stéphanie qui nous dit ça roule moins dans les Alpes-Maritimes, on va voir ce qu'en dit Julien. Et là, on est du côté de la Sarthe. Bonjour Julien.
Eh ben bonjour à tous. Moi c'est pour vous faire un petit retour assez factuel parce que je suis en train de m'apercevoir de ça parce que je suis commercial donc tous les jours sur la route avec obligation cardiaque de mettre l'essence chez Total. Et le fait est que ça devient très compliqué au point qu'on a quasiment la totalité de nos stations Total qui sont en rupture.
Parce qu'elles sont un peu moins chères.
Donc aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est venu chez Total parce que c'était eux qui l'avaient plafonné, eux qui étaient les moins chers.
Voilà.
Donc les Total sont les premiers maintenant à être en rupture. Donc tout le monde se rue vers les autres. Mais je sais qu'en Sarthe ça devient très problématique. Au point que j'ai passé quasiment une heure hier à trouver une station pour pouvoir mettre de l'essence pour juste faire mon travail.
Donc il y a un décalage entre ce que nous dit le gouvernement qui se veut très rassurant et la réalité de certains territoires.
Alors après du côté de chez Total, comme tu le disais Sandrine, on assure qu'effectivement on essaie de réapprovisionner rapidement possible les stations.
En fait ces pénuries ponctuelles ne sont pas dues au fait qu'il n'y ait plus assez d'essence ou de pétrole. C'est dû au fait qu'il y a une surconsommation spontanée chez Total. Chez Total, mais on a des stocks en fait.
Oui, bien sûr.
Tu te souviens de l'affaire Elf à l'époque, Congo, Gabon, parce qu'il y avait des barils qui disparaissaient. Moi, j'invite les députés à refaire des commissions parlementaires sur ce qui se passe avec Total, parce que aujourd'hui, Total exploite bien plus de barils de pétrole qu'à l'époque en Afrique, d'accord. Donc, on en a du pétrole, on en a de l'essence. Donc, qu'on arrête de se foutre de notre gueule.
Oui, attendez, il y a quand même aussi une chose, c'est que on oublie peut-être un peu un paramètre, c'est que là, on ne sait pas combien de temps la guerre va durer encore.
Ça, c'est vrai.
Donc là, ce qui veut dire, c'est très bien, on a des stocks. Parfait. Sauf que si, au départ, la guerre devait durer 2 semaines. On en est à combien de semaines, dis-moi?
On est à 33 jours.
Je connais quelques potentats dans certains pays que je ne nommerai pas.
Tu peux les dire. Hein.
Congo-Brazzaville notamment, merci. Monsieur Sassou et toute sa clique. Ah bah dis donc, en ce moment, c'est jackpot. Ça doit y aller les barils.
Alors, est-ce que vous craignez? Merci à tous pour vos témoignages, à Guillaume, à Julien. Là, on a parlé de la pénurie. Maintenant, on va s'intéresser à ce fameux surplus, à cette marge de manœuvre dont dispose le gouvernement. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment une marge de manœuvre pour pouvoir atténuer la hausse du carburant? Vous venez continuer d'en discuter avec les grandes gueules. On est ravis d'en parler avec vous. Ça nous fait plaisir.
C'est inédit.
Il est 9h20.
On est la France qui travaille.
C'est
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue de discuter avec vous, avec Maître Sandrine Pégan, avec Abel Boyer, l'éducateur, avec Barbara Lefebvre, l'enseignante. On continue de discuter du carburant et cette fois-ci de la marge de manœuvre du gouvernement.
Je fais le plein hier matin, 67 euros. J'estime que j'en ai pour 50 euros de plus par mois. Pour le moment, on attend réellement une aide.
Marche au fioul à l'ordinaire, ok, rebelle ou au super. De toute façon, c'est toujours du pétrole. Et la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine, ne cherche pas, c'est toujours.
Qu'est-ce que j'aime votre pétrole?
Production de l'équipe des GG, là c'est Donatien qui est aux manettes là en ce moment. Donc le gouvernement dit qu'il a peu de marge de manœuvre contre la hausse du prix du carburant. Donc il n'a pas beaucoup de leviers pour agir en faveur du pouvoir d'achat.
Pour ça que le plan d'aide est assez minimal. Hein. C'est 70 millions d'euros, c'est rien par rapport aux besoins. Mais le gouvernement nous dit, on n'a plus d'argent. Et c'est vrai, on a un gouvernement qui est dépensier. Alors le gouvernement Lecornu, mais les gouvernements précédents, pareil. Donc on dépense trop, et donc on est coincé quand il s'agit d'avoir des marges de manœuvre pour aider les automobilistes, par exemple, lorsqu'il y a une crise. On a plus de gras, quoi, en quelque sorte. Et donc la stratégie du gouvernement, c'est de gagner du temps, de parier sur le fait que cette guerre s'arrêtera rapidement et que tout rentrera dans l'ordre. Bon. C'est vrai que c'est assez léger, parce que on dit toujours que gouverner, c'est prévoir. Là, ils ne prévoient rien. Là, ils sont simplement chaque jour à se demander si Trump va oui ou non arrêter cette guerre. Alors, il y a quand même une chose qu'ils pourraient faire qu'ils n'ont pas fait. Ils pourraient, par exemple, suspendre les certificats d'économie d'énergie. Voilà. C'est un truc qu'on a inventé récemment, et c'est un dispositif qui est censé financer les économies d'énergie en France. Et ça, ça renchérit le coût du plein. Mais et en plus, c'est pas dans le budget. Donc, ils pourraient très bien dire, on le suspend le temps que la crise passe. Et on n'a pas entendu le gouvernement le faire, ça permettrait de récupérer quelques centimes. Alors il y a toujours ici l'idée de la TVA, de baisser la TVA. Alors c'est vrai que ça coûte cher, il y a aussi le surplus fiscal, puisqu'on a appris qu'il y en avait un finalement. Donc il y a encore des marges de manœuvre. Peut-être que le gouvernement se réserve, attend de voir jusqu'où la colère va monter.
Ouais, ben ils attendent de voir lorsque les Français n'en finiront plus de mourir. Je suis désolé, on a un gouvernement qui n'aime pas les Français. Les certificats dont tu parles, c'est 15 ou 16 centimes à peu près. Ils peuvent pas supprimer ça parce que cet argent, il va toujours aux copains des agences de monsieur Duchemol.
Ils peuvent le suspendre quelques mois.
Mais ils peuvent le suspendre. Pourquoi ? Mais ça va être compensé par de la consommation. Je comprends pas ce pays, en fait, qui est toujours enquisté. On dit qu'on n'a pas d'argent. D'accord. Baisse les taxes et les Français vont consommer. Toute personne rêve de pouvoir consommer, de pouvoir kiffer un petit peu en réalité. Donc, si mon essence est à 1,50€, les 50 centimes que je vais gagner, ben, je vais les mettre dans les supermarchés, dans les hypermarchés et dans les supérettes en réalité. Donc, cet État, ce gouvernement est en train de participer à la mort des Français. Je suis désolé de le dire. Mais bien entendu.
Ça date que d'aujourd'hui, tu vois?
Non, mais ça date depuis un moment.
C'est
mais là,
peu,
là,
ah, là, là,
mais
là on a un moment.
Mais c'est la réalité.
Non, c'est la ruine.
Les Français sont en train de mourir aujourd'hui. Et c'est plus possible. Moi, il y a deux jours, je discutais avec une auditrice des GG. Elle me dit, monsieur, ça fait 15 ans, je peux plus m'acheter de vêtements. Aujourd'hui, l'essence est trop chère. Je ne sors plus. Je suis enfoncé dans un système de sédentarisation psychologique et physique. Je vais mourir. Voilà ce qu'elle m'écrit sur Instagram. C'est une auditrice. Donc voilà, au bout d'un moment, et je pense qu'il y a des millions de Français ou des Françaises qui sont comme elle, à des degrés différents. Donc, baisser les taxes, ça va être amorti par
on
la
pas
consommation.
Les moyens. On
mais
a
si,
pas
mais
les
ça
moyens.
Va être amorti par la
non,
consommation.
C'est pas aussi mais, simple que ça.
Mais, non, mais Sandrine.
Mais bien sûr que
Abel,
si.
Abel, oh là, t'es énervé, t'es monté en l'air.
Abel, tu trouves
Non, mais encore, je pense qu'il y en a, il en a en dessous, la pédale. Mais faut, à un moment donné, il faut être aussi réaliste. On peut pas être amnésique. Tu l'as très bien dit, Alain. L'État est endetté. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent. Donc, alors, c'est bien beau, l'État-providence, il faut donner des boucliers, etc. Mais entre le Covid, tout ce qui s'est passé pour les gilets jaunes,
non,
comment tu fais aujourd'hui
non.
Et tu crois
tu
que c'est véritablement
taxes,
en baissant les taxes
consommer. C'est
mais
même comme
mais,
ça qu'on
mais
va
c'est
sortir
pas suffisant.
C'est même comme ça qu'on va sortir le pays de la crise. Dans tous les domaines, les gens demandent qu'on baisse les taxes.
Il faut être réaliste.
Les artisans, les commerçants dont tu as parlé, qui ne peuvent pas embaucher, qu'est-ce qu'ils demandent? Baisser les taxes, je vais embaucher plus. Baisser les taxes, je veux augmenter les salaires. Baisser les taxes,
mais
je vais consommer.
Mais sauf qu'on a une dette, tu connais le montant de la dette quand même.
Bien sûr, oui, 3 400 milliards. Mais oui, mais
donc alors comment tu veux faire? Tu veux encore baisser les taxes?
Toi, en fait, ta philosophie, c'est sortir de la crise par les impôts. C'est ça que tu es en train de me dire. Parce qu'il y a que
je pense qu'elle en paye pas mal.
Juste, je vous rappelle, c'est 70% nous qu'on est taxés en tant qu'avocat. Donc,
c'est
on n'est pas là en train de vivre la belle vie.
C'est soit on fait confiance aux Français et on relance l'économie par la consommation. Il y a deux philosophies.
Mais en même temps, Abel, par les impôts, finance l'école gratuite, l'hôpital.
Ben
oui, si, les dépenses salaires
différées.
Barbara, la les aides et tout ça. Ben
si,
attention. Vous aimez, là. Vous êtes gavé à tout ça, là. Les aides, les chèques.
Alors, les chèques, certainement pas. Mais si toutes ces taxes et tout cet argent qui est engrangé grâce aux prélèvements des artisans, des professions libérales, de ceux qui payent les 45% qui payent l'impôt sur le revenu, des taxes sur le carburant, etc. Si tout ça servait à faire fonctionner l'État régalien, si tout ça servait à faire fonctionner l'école, l'hôpital public, la justice, la police,
mais ça fonctionne,
moi je vous dirais, c'est de la dette utile. C'est de la dette utile. Comme les États-Unis sont hyper endettés, le Japon est hyper endetté, l'Italie est hyper endettée. Pourtant, c'est bizarre, ils empruntent moins que nous sur les marchés financiers
ils
au niveau de leur dette. Ils font moins
dette.
Peur aux marchés financiers. Pourquoi? Parce que les marchés financiers et nous, les Français, on se rend bien compte que cet argent, il est allé vers de la gabegie. pour faire de l'assistanat à grande échelle, pour donner à des entreprises qui n'ont pas besoin de subventions, donner notamment, par exemple, moi je comprends pas, par exemple, qu'il y ait certains journaux, la presse, des journaux de presse qui touchent des millions et des dizaines de millions d'euros de subventions parce que sinon ça se vend pas.
Beaucoup d'argent.
Je ne parle même pas des 4 milliards que coûte France Télévisions.
Les agences, 1400 milliards.
Les agences, donc il y a de l'argent.
Ça ne représente rien par rapport au budget de l'État.
Non, tout représente rien, mais si tu les ajoutes les uns derrière les autres, ça représente beaucoup.
Ce qui coûte le plus cher en France, c'est la sécu et les retraites.
Voilà. Eh ben,
les retraites, il fallait surtout pas réformer les retraites.
Eh ben, ils l'ont réformé.
Donc, on a suspendu la réforme des retraites. Eh bien, voilà, on n'a plus d'argent. Et la sécu,
Il
faut rembourser. Les Français sont accros aux médicaments.
Voilà.
Les pharmacies sont pleines. On rembourse
et
tout.
La
c'est
sécu,
formidable. Voilà.
Et toute réforme de la sécu. Et quand moi, ici, je dis que je suis désolée, par exemple, c'est pas à moi, d'une certaine façon, parce que maintenant, j'en suis arrivée là. Mais c'est pas à moi de payer pour, excusez-moi, je le dis brutalement, et je sais qu'il y en a, à chaque fois, je me fais insulter sur les réseaux, genre, on n'a rien à carrer complètement. Mais je n'ai pas à payer pour la cirrhose du foie de l'alcoolique. Non! Je n'ai pas à payer pour le mec qui a bouffé.
Pour le cancer du poumon.
Qui a bouffé pendant des années et des années de la junk food, qui a du diabète et qui a du diabète à 40 ans. Moi, je suis navrée pour lui. Mais il faut qu'à un moment donné, les gens assument une partie de leur comportement. On peut plus se permettre. C'est normal de payer pour la chimio, etc., de certains malades. Mais il y a des maladies, notamment un certain nombre de maladies chroniques, qui sont liées à des comportements de vie. Des gens qui considèrent que oui, c'est la responsabilité de tous.
Bah, les gens n'ont pas voulu avoir, n'ont pas voulu leur cancer.
Ah, ben non, mais quand t'as bouffé de la merde toute ta vie.
Ils ont cherché à avoir un cancer.
Non, je t'ai pas dit qu'ils ont cherché. Ouais. Mais tu le sais que quand tu fumes et que quand tu bois, tu vas avoir des gros problèmes de santé. Moi, je suis désolée, il y a une irresponsabilité générale.
Les antidépresseurs, c'est de leur faute aussi.
Les antidépresseurs, c'est un vrai problème. Comment tu m'explique justement que dans un pays qui a une telle protection sociale, qui est si généreux, c'est le pays le plus beau du monde où on peut être soigné gratuitement. Comment ça se fait qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs?
On a Nathalie qui va intervenir dans notre discussion.
Ah ben tout le monde va mal. C'est normal, on est un pays de gens qui se regardent le nombril.
Le plus de cannabis.
Barbara, tu es jamais content.
Tu penses que les gens ils sont contents de mal manger? Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter correctement, acheter bio, acheter bien. Parce que non. Pardon, mais le Français quand il lui,
il va manger.
Ah j'ai pas tort, merci.
De toute façon,
je vous l'avais dit, comme je suis, c'est ma fête aujourd'hui, vous avez le droit de cautionner. Non, mais c'est vrai.
J'insiste. Vas-y. Je sais, on me l'a déjà raconté 50 fois ça.
Vas-y. Celui qui mange mal, parce qu'il ne peut, peut peut-être pas faire autrement.
D'accord.
Parce que tu vois, dans sa petite poche, quand il va au supermarché, tu sais combien ça coûte aujourd'hui, le moindre supermarché, quand tu fais des petites courses pour un repas, sincèrement, maintenant, ça coûte une fortune. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va au plus rapide. Donc, on prend des pâtes. Alors, les pâtes tous les jours, c'est pas bon. On va manger du pain, c'est pas bon non plus pour le corps. Parce que
si tu manges des pâtes et du pain, ça va.
Mais non, parce qu'il y a,
je vais te dire juste une chose. Ce discours-là, moi, je suis navrée.
Mais donc tu peux pas dire. Je pense qu'ils aimeraient bien tous manger des légumes, tu vois, mais ça coûte beaucoup trop cher.
Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils avaient encore moins d'argent que les gens pauvres aujourd'hui en France, qui se disent pauvres et qui pleurnichent toute la journée, mais qui ont des aides, etc. Et ils faisaient de la nourriture.
Ils vivaient de leur potager.
Mais non, ils vivaient pas de leur potager. Moi, je te parle de gens qui vivaient en ville, ils avaient pas le potager. Mais ils accommodaient. Ils faisaient eux-mêmes la cuisine et ils accommodaient. Crois-moi, si tu fais toi-même la cuisine et que tu sais accommoder tes restes, par exemple, t'as pas besoin d'aller t'acheter un pasta bowl.
Alors,
je suis désolée, c'est la facilité.
Je suis dans un
procès. C'est la facilité qu'ils veulent.
Mais on n'a pas le choix. Moi, je termine, il est 21h30 le soir quand j'ai passé 12 heures aux assises.
Tu peux faire des pâtes chez toi.
Eh ben voilà, donc alors tu veux que je mange des pâtes tous les jours. Donc il faut manger des légumes, il faut manger des protéines, tout ça.
Eh ben oui, tu te prépares tes plats à l'avance. On a des congélos, on a des micro-ondes, on a tout ce qu'il faut.
Alors attendez, je voudrais qu'on aille au 32-16. Je voudrais qu'on aille au 32-16. On a un conseiller de vente, c'est Quentin qui est du côté de la Haute-Vienne. Bonjour Quentin.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pensez qu'on a. On a une petite marge de manœuvre ou pas?
On a une marge de manœuvre pour donner un chèque à M. Zelensky à chaque fois qu'il vient à l'Élysée, il me semble. Je pense pas qu'à mon avis, il reparte qu'avec un cajot de patates. Voilà. Ensuite, on a une marge de manœuvre pour sortir 20 milliards pour construire un porte-avions. Excusez-moi, mais il faudra peut-être que le gouvernement pense d'abord au jour J, au moment présent, que
c'est pas fait encore, c'est pas fait.
Parce que
c'est pas
Français,
fait, c'est des promesses.
Allez-y,
si les Français n'en peuvent plus se déplacer à cause du carburant, ils consomment pas. Il y a des entreprises qui vont se casser la gueule, qui vont fermer.
Voilà.
Donc en fait, c'est la France entière qui va se casser la gueule.
Merci.
Et donc on aura un pays où il y aura plus personne qui travaillera. On aura un pays qui va être encore plus endetté. Et par contre, on aura un porte-avions. Ah, ça c'est important. Excusez-moi, mais non, c'est pas possible. On a de l'argent quelque part. mais le gouvernement veut le mettre ailleurs.
Et ah, voilà. Quentin, justement,
attention Quentin, on a de l'argent quelque part, ne leur donnez pas une mauvaise idée, l'épargne des Français. Alors je le redis, ne touche pas à mon épargne.
Ça viendra tout.
6 000 milliards.
On l'a mis de côté justement pour, parce qu'on sait qu'on n'aura pas de retraite, parce qu'on sait que nos enfants ils vont morfler dans leurs études.
T'imagines si cet argent arrivait dans le circuit économique.
Mais c'est bien, ils en ont envie.
Le seul intérêt quand même de cette période,
alors là, je peux te dire,
c'est que les Français prennent conscience néanmoins qu'on a quand même plus de marge de manœuvre puisque nous sommes endettés et que le déficit de la France est au-dessus de 5%. Ça veut dire quand même, on est un an de la présidentielle, que effectivement tous les candidats qui commenceront à nous faire des promesses de démagos en disant on va dépenser ici, on va dépenser ça, on va embaucher, il faut pas les croire parce que ce n'est pas vrai. On ne peut plus.
Je voudrais poser une dernière question à Quentin.
Ça va être la foire aux promesses.
Je pense pas. Quentin, une dernière question pour vous justement. Comment vous avez aménagé vos trajets quotidiens avec la voiture justement, fort de ce qui se passe en ce moment?
Moi personnellement, je ne roule pas beaucoup parce que j'ai la chance d'habiter quasiment à une dizaine de minutes de mon travail. Donc ça, de ce côté-là, je ne vais pas me plaindre.
Oui.
Et puis bon,
j'ai de la chance.
Voilà, moi, c'est vrai que j'ai une voiture qui ne consomme vraiment pas beaucoup. C'est que du 4 litres au 100. Donc,
c'est hybride, non?
Non, mais pas, c'est une thermique. C'est une vieille mamie qui a plus de 24 ans maintenant, mais qui consomme quasiment rien. Je roule éco au maximum. Donc moi je fais pas partie des Français qui veulent se plaindre. Ça, de ce côté-là, je suis pas légitime pour ça. Mais par contre, effectivement, c'est sûr qu'un jour, je pense qu'on va y arriver à 3-4 euros si ça continue comme ça, parce que si on a des gouvernements qui se succèdent et qui préfèrent voler les Français que de faire des efforts pour les Français, alors que comme j'ai dit à votre collègue au standard, c'est quand même les Français qui, enfin c'est quand même grâce à nous les Français qui sont là où ils sont. Donc faudrait peut-être aussi nous rendre un petit peu le modèle de notre pièce.
Mon cher Quentin, je vous remercie d'avoir pris part à notre discussion. Merci à vous tous au 32-16. On a posé la question, pas de marge de manœuvre, dit le gouvernement, pour le carburant, pour jouer sur le prix des carburants. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que...
Bon, pas d'accord.
Les
Français ne réalisent pas qu'il n'y a plus d'argent. Les Français savent qu'il y a de l'argent, mais qu'il est mal distribué.
Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. C'est le on s'en fout pas. Donald Trump qui dit publiquement que notre président se fait maltraiter par sa femme. On retrouve un squelette de femme dans un appartement du 16e. 8 ans que cette femme était dans son appartement, morte ou pas, mais personne s'en est soucié. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
GG les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. On va vous donner la parole tout à l'heure à partir de 10h dans nos autres sujets. Raphaël Arnaud, vous savez, le député de la France Insoumise, le fondateur de la Jeune Garde, qui est de retour à l'Assemblée Nationale, est-ce que vous êtes choquant ou pas? Moins d'élèves, est-ce qu'il faut avoir en corrélation moins de profs? Là aussi, vous venez témoigner au 32-16. Et puis, est-ce que vous soutenez l'action collective contre le trop-perçu des péages? Voilà les sujets sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous appeler au 32-16. Pour le moment, c'est le on s'en fout pas, il est 10h moins le quart.
RMC, les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas.
Avec Louis Gerbier. Bonjour Louis.
Salut Alain. Bonjour à tous. Donald Trump tacle.
Alors attends, il y a un problème avec le micro. Vas-y, prends le mien.
Je m'entends pas dans l'oreille. Ah, le voilà arrivé? Non, toujours pas. Alors bonjour à tous. Salut Alain. Donald Trump tacle de nouveau le président français. Une sortie dont lui seul a le secret, toujours pleine de classe. On s'en fout pas, Abel?
On s'en fout pas.
Sandrine?
On s'en fout littéralement.
Et Barbara?
On s'en fout pas.
Bah, je vous propose tout simplement d'écouter le 45e et 47e président des États-Unis.
J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement? Non, je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, Donald. Nous pourrons le faire lorsque la guerre sera gagnée. J'ai dit non, je n'en ai pas besoin lorsque la guerre sera finie, Emmanuel.
Alors, Barbara, on s'en fout pas de cette nouvelle déclaration.
Non, on s'en fout pas.
Donald Trump.
Moi, j'adore ce génie clownesque de Trump. Moi, franchement,
Si on avait d'autres chefs d'État qui pouvaient parler comme ça, on se marrerait au
même
moins.
Même si on évoque la vie privée des...
Ouais, mais on n'est pas là pour rigoler.
Ah non, c'est pas la vie privée parce qu'on a tous été témoins de quand il s'est pris un revers de la droite, donc à la sortie de l'avion.
De s'en moquer entre chefs d'État, est-ce que c'est vraiment la hauteur?
Écoute, je pense que Emmanuel Macron ne se prive pas du haut de sa superbe et de sa prétention mégalomaniaque
d'attaquer
Trump.
Dans sa vie privée,
non, mais il n'a jamais parlé de Mélania.
Politiquement, oui, il s'est jamais moqué de sa coiffure. De son teint orange.
C'est un peu mesquin.
Ouais, aussi. Oui, on est en train de le faire aujourd'hui.
Mesquin.
On peut le faire aussi.
Bien sûr, oui. De toute façon, moi, pour moi, celui qui ruine la... Moi, je suis française. Je suis pas américaine. D'accord? Moi, je suis française. Celui qui ruine la France, qui fait honte aux Français, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, tous ceux qui se foutent de Macron, j'applaudis les deux mains. Et d'où qu'ils viennent. Voilà.
Même,
et
même en plus, si c'est en bas de la ceinture.
Mais monsieur rigolo, il s'est pris une droite. Oh, eh ben Abel, oui, il s'est pris une droite.
Si on peut avoir une Abel. Réponse hypocrite, si on peut dire la vérité, beaucoup de gens se sont marrés. Moi-même, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Franchement, j'ai vraiment rigolé. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir à quel point le pays n'est pas respecté. C'est de voir à quel point le président de la République qui dit que pour être craint, faut être je sais pas quoi. Là, il avait sa citation, tout ça. Ben lui-même, voilà, il faut être fort pour être craint. Il n'est ni fort ni craint. Et je trouve que c'est quand même grave pour la France, pour l'image de la France, qu'un président américain puisse parler comme ça. On sait que les Américains,
Trump, il parle comme ça de tous les présidents
de
tous les
pays. Bon, mais si,
il a même dit du prince saoudien, il a calé chez mon cul. Si tu veux, il est respectueux.
Mais oui,
il est respectueux avec tous les chefs d'État.
Oui, mais d'accord. Mais c'est bizarre, Barbara, toi qui défends le respect de l'autorité de qui d'autre? Il s'est moqué de l'épouse de qui d'autre, sachant qu'il a déjà fait des blagues aussi sous sa première mandature, comme quoi Brigitte était peut-être un homme, il avait laissé entendre et tout. Donc, oui, c'est drôle, mais c'est dramatique pour le pays. En réalité, quelqu'un parle sur ta femme, sur ton épouse, je suis désolé, tu lui réponds. Tu restes pas comme ça.
Oui, mais la
partout
dans le monde, l'image dégradée de la France, excusez-moi, c'est inquiétant. Non, tu parles à énormément de gens.
L'image dégradée des États-Unis, on en parle.
Ah bah, excuse-moi, les touristes qui viennent en France, ils ont une image dégradée de la France. Je suis désolée. Et je connais aussi des gens qui me disent, dans d'autres pays, moi, je ne veux pas venir en France parce que, excuse-moi, on n'a pas une bonne image. Oui, maintenant,
Barbara,
si vous trouvez qu'on a une bonne image.
Le pays le plus
visité au monde.
Attends, Barbara, déjà, on est le premier pays le plus visité au monde. Et en ce moment, il n'y a plus beaucoup de touristes aux États-Unis, en plus ils ont mis des règles beaucoup plus compliquées, donc c'est plutôt l'inverse. Et puis deux, toi qui défends toujours le respect, l'exemplarité, c'était marrant quand c'est Trump, parce qu'il parle de Macron que tu détestes, tout d'un coup il n'y a plus d'exemplarité, plus de respect. Moi, l'exemplarité de ceux qui nous dirigent, ça vaut pour tout le monde.
Il n'y a rien de drôle, c'est ça le niveau du débat international. Est-ce que c'est ça le niveau du débat international? On est en train de parler de chefs d'État, ces chefs d'État doivent résoudre des conflits internationaux, des tensions économiques, et on doit respecter.
Si Macron avait été efficace pour résoudre le moindre conflit, il est allé après l'explosion du port du Liban, je vous aime, il a rien fait. L'Ukraine, ça va faire 4 ans qu'il les cajole, il a rien fait. Je te parle même pas du Moyen-Orient. Et il a mis plus la pagaille qu'autre chose. Macron, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour mettre la pagaille. Donc, excuse-moi, Trump, je pense qu'il résout les problèmes à sa façon, de façon beaucoup plus efficace.
La guerre en Iran, ça a duré quelques jours.
Il a entre les mains 3 jours. Il a entre les mains plus de leviers que Macron.
Et moi je regarde
ce que Macron a fait de la France. Il a ruiné la France en 10 ans. Et moi je suis française, donc moi je dis.
Oui, mais c'est pas le problème. Là, on est en train de demander si un chef d'État a le droit de manquer de respect à un autre chef d'État.
Louis.
On adore.
Oui. Allez, on reprend la main. Le salaire de Nagui. Le salaire seulement pour n'oubliez pas les paroles révélées à l'Assemblée. On s'en fout pas, Barbara.
On s'en fout pas.
Sandrine.
On ne s'en fout pas.
Abel.
Je m'en fous totalement.
Totalement, je le sentais. 2 500 € par émission, n'oubliez pas les paroles, soit 1,5 million d'euros par an.
Combien ?
1,5 million d'euros par an. Alors, je vais vous demander si vous êtes choqué, mais à titre de comparaison, je prends 3 000 euros pour chaque OSEF. Donc, c'est pas tant que ça.
Je peux postuler parce que ça m'intéresse. Tu gagnes plus que moi en étant
avocat. Alors, Sandrine, dis-nous pourquoi t'en fous pas.
Ben, on s'en fout pas parce que Nagui représente le service public, tu vois. Donc, on a un peu le sentiment que c'est sur nos deniers qu'on paye son salaire. Et alors, après, on peut s'étonner du montant, mais parce que sur France Télévisions, mais il gagnerait combien s'il était sur TF1 ?
Sûrement plus.
Voilà.
Barbara.
Pour animer un karaoké, pas mal.
Qui
marche bien d'ailleurs.
Ouais, ouais,
ça fait l'audience. Ça marche bien.
Ça
marche bien depuis plusieurs années maintenant. L'émission est installée, ça génère de la publicité.
C'est un karaoké que je ne regarde pas, mais que je paye apparemment. Bah oui. Parce que moi, je paye mon impôt sur le revenu. Et mon URSSAF aussi en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je suis contente de savoir que je paye la résidence, les résidences secondaires de Nagui, qui par ailleurs est un homme de gauche. Donc ça, par contre aussi, je suis contente parce que je sais à quel point il a le cœur sur la main. Moi, ce qui m'a un petit peu agacée dans son audition, c'est qu'il dit très énervé que jamais. Jamais il n'a tenu de propos politiques en appelant à voter pour tel ou tel. Non, sauf qu'il dit clairement pour qui il faut pas voter. Donc quand tu dis pour qui il faut pas voter, c'est comme si tu disais pour qui il faut voter. Donc ces gens-là, c'est des petits perles à morale, toujours la main sur le cœur de gauche, mais ça gagne 1,5 million pour animer un karaoké avec Olivier, l'argent du contribuable. Moi j'aime.
Au-delà du montant du salaire qui peut effectivement choquer ceux qui nous écoutent.
C'est combien par mois?
Il y a quand même un problème de transparence.
Plus moi, sa
je trouve, et ce problème de transparence n'a pas été résolu parce que hier Nagui expliquait qu'il ne déposait pas ses comptes annuels en raison de la concurrence entre producteurs. Il dit je préfère payer l'amende plutôt que de subir cette concurrence.
Tiens, comme Dominique de Villepin.
Et Michel Drucker, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on leur demande quelles sont vos marges, c'est très flou. Moi, je trouve ça bizarre parce que c'est de l'argent public, même s'il y a une partie de la publicité pour Nagui puisque c'est au moment où il y a de la pub, mais c'est de l'argent public et on demande finalement aux autres entreprises de respecter la loi et des entreprises qui bénéficient d'argent public la respectent pas et préfèrent payer l'amende. Moi, je trouve que le seul point intéressant de cette commission, c'est ça, c'est le manque de transparence quand même de ces boîtes de prod. Et il faut peut-être faire un peu plus de ménage, ou en tout cas demander de la clarté.
Et leur arrogance quand ils répondent, parce que c'est systématiquement fin de non-recevoir. Même un certain nombre de données statistiques et de salaires,
c'est ça qu'il faut.
Madame Ernotte n'a pas voulu les donner à la commission, donc ils iront les chercher. Et j'espère que le rapport de la commission va être exhaustif, et surtout qu'on en fera quelque chose. Alors pas maintenant, mais après 2027, j'espère qu'on en fera quelque chose, parce que moi j'en ai ras-le-bol de payer pour les karaokés.
C'est bien les karaokés, non?
Bah pas pour un karaoké, à 1,5 million.
On va lui organiser ça pour son anniversaire à Barbara.
Préciser, le patron de la société de production Banijay justifie le salaire de Nagui.
Oui, parce qu'il n'est pas payé directement par France Télé, il est payé par Banijay, la boîte privée.
Mais le contrat de Banijay est avec de l'argent public.
Bah voilà, donc.
Justifie son salaire pour un talent unique. Le talent unique de Nagui qui fait des audiences et des bonnes audiences depuis maintenant deux décennies ou plus.
Mais après, est-ce qu'il avait besoin de se victimiser en disant oui, Charles, à l'oncle, c'est à cause de vous que j'ai reçu des menaces sur les réseaux sociaux, que j'ai dû déposer plainte? Est-ce que c'était aussi une obligation de sa part?
Oui, c'est
un peu pathétique. Et puis lui, après, qui dit oui, et donc le Charles Alonque qui répond en disant mais moi aussi, j'ai reçu du cyberharcèlement suite à ce que vous avez dit. Bon.
Dans un instant, avec les GG, avec vous au 32-16, Raphaël Arnaud, le député de la France Insoumise, le fondateur de la Jeune Garde, aujourd'hui dissoute en théorie, de retour à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous choque ou pas? Moins d'élèves, donc il faudrait moins de profs. Est-ce qu'il faut aller sur cette logique, oui ou non? Et puis l'action collective contre le trop perçu des péages. Il y a une espèce de bataille qui se lance, bataille collective contre l'argent récolté par les sociétés privées des autoutes. Vous venez en discuter avec nous, il est 10h05.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.